Ce matin, la prédication porte sur une parabole qui se trouve dans Matthieu 25. Et bien, nous allons la lire ensemble. Et les enfants, je vous propose de bien écouter cette parabole parce qu'après, j'ai des questions pour vous. Je compte sur vous pour nous expliquer un peu ce que c'est que cette, ce qui se passe dans cette parabole. Ok ? On essaye ? Matthieu 25, à partir du verset 13, alors vous avez le texte affiché derrière moi, vous pouvez suivre dans votre Bible si vous le souhaitez. C'est la parabole des talents, et j'ai dit à partir du verset 13, c'est à partir du verset 14 en fait. « Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. » Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien. Tu es un bon esclave digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vient aussi et dit « Maître, tu m'avais confié 10 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien. Tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sauvé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon arrivée, j'aurais pu récupérer ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Voilà le texte dont nous allons parler ce matin, cette parabole. Et dans une parabole, la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre. Comprendre de quoi Jésus parle et quelles sont les comparaisons qu'il fait. Alors ici, on a un maître. Qui est le maître ? David. C'est Jésus le maître ? Jésus, Dieu, qui est-ce ? James ? Dieu ? Je pense que vous avez raison. Le maître, c'est Dieu. Et qui sont les esclaves ? Alors, dans ma version, j'ai les esclaves, et je dois être la seule version qui choisit de traduire « esclave ». Dans l'original grec, c'est « esclave », mais il faut savoir qu'à l'époque, tous ceux qui travaillaient pour quelqu'un étaient des esclaves. Plus de la moitié des personnes étaient des esclaves. C'est pour ça que je pense que la plupart des versions qui traduisent serviteur n'ont pas tort en traduisant serviteur. Qui sont les esclaves ? Nathanaël. Les disciples. Les disciples, oui. C'est-à-dire, c'est qui c'est les disciples ? Ceux qui servent le Seigneur. C'est ça. Pas seulement les 12 qui sont avec lui, mais tous ceux qui servent le Seigneur à l'époque et aujourd'hui encore. En fait, ceux qui sont chrétiens. Voilà qui sont ses esclaves, ses serviteurs, ses disciples. Et alors, une question un peu plus difficile. Qu'est-ce que c'est les talents ? James, qu'est-ce que c'est les talents ? C'est de la monnaie. C'est juste. Les talents, c'est de l'argent. De l'argent qui est confié. C'est beaucoup d'argent. J'ai regardé un tableau avec les différentes unités de monnaie. C'est le max. Pour vous donner une idée, un talent, c'est 6 000 deniers. Un denier, c'est une journée de salaire. J'ai fait la division. Ça représente 20 ans de salaire. Un talent, c'est 20 ans de salaire. Si on regarde avec le salaire minimum qu'il y a en France en ce moment, un talent, c'est 355 000 euros. Ça fait beaucoup. Donc, celui qui avait le moins, il avait 355 000 euros. Celui du milieu, il avait 700 000 euros. Et celui qui en avait le plus, il avait 1,8 million. 1,8 million d'euros. Pourquoi est-ce que Jésus raconte cette parabole ? Les paraboles, Jésus les raconte pour enseigner. Pourquoi est-ce qu'il raconte celle-là ? Quel est l'enseignement qu'il veut tirer ? Cette parabole, c'est la parabole du milieu dans une série de trois paraboles qui parlent de la fin des temps. La fin des temps, le moment où Jésus reviendra. Et ces trois paraboles nous disent que ce sera un temps de surprise. Parce qu'il se passera des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et le but de ces paraboles, et de celle-là en particulier, c'est de nous prévenir pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Pour nous prévenir et nous enseigner qui est Dieu et qu'est-ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans cette parabole ? On apprend que Dieu veut la croissance. Et la croissance, dans le sens le plus économique du terme. C'est un objectif fort pour lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué le mauvais esclave qui craint Dieu et lui dit « Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu récoltes là où tu n'as pas répandu. » Et Dieu ne le contredit pas. Dieu s'attend à avoir plus, à être dans la croissance, qui est un thème de notre époque. On parle de la croissance économique tout le temps. Dieu attend cela. Il souhaite étendre son royaume, que le royaume de Dieu soit toujours plus étendu sur terre. Il n'a pas semé le royaume de Dieu pour qu'il reste là, dans son petit coin, en autarcie, dans son bocal, jusqu'à son retour. Pendant ce temps, il faut qu'il grandisse. Et pour cette croissance, Dieu se repose sur les siens, sur ses serviteurs, sur les disciples, sur les chrétiens. Parce que quand on est à la suite de Jésus, quand on le suit, c'est pour se mettre au travail avec lui, pour faire fructifier ce que nous avons, pour qu'il puisse avoir plus que ce qu'il nous a confié lorsqu'il reviendra. Et nous l'avons vu, on a vu combien un talent c'était beaucoup d'argent. Il nous confie beaucoup. Il nous confie son Saint-Esprit, l'Esprit qui réside en nous, un guide précieux qui nous conduit. Il nous confie des dons spirituels qui modèlent notre caractère. Dans le livre de Galates, on a une liste: amour, joie, paix, patience, amabilité, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tout ça, il nous le donne. Il nous donne aussi des dons spirituels. Il y a plusieurs listes. Dans 1 Corinthiens, on a parole de sagesse, parole de connaissance, foi, don de guérison, don d'opérer des miracles, prophétie, discernement des esprits, parler en langue, interprétation des langues, des dons donnés aux chrétiens, aux disciples. Et puis, il nous donne des capacités. Capacité de présider, d'enseigner, capacité d'artisanat, tout ça, on les trouve dans la Bible et c'est indiqué comme un don venant de la part de Dieu. Ce qu'il donne à chacun est différent à chacun, comme dans la parabole. Personne n'a le même capital. Et dans la parabole, il est dit qu'il est donné à chacun selon ses capacités. Ce n'est pas une question de favoritisme, c'est une question de qu'est-ce que le serviteur, qu'est-ce que l'esclave est capable de faire. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous capables de gérer la même chose. Et j'ai pu le voir dans ma vie professionnelle, dans ma vie en tant que pasteur. Il y a des gens qui arrivent à gérer certaines choses, et puis il y a des gens devant la même tâche, ils ne savent pas par quel bout la prendre, c'est la panique. Et il y a des gens qui arrivent à gérer des grandes équipes, et il y a des gens qui sont plus efficaces quand ils s'occupent d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont à faire, et qui se concentrent sur leurs tâches. On a des capacités différentes. Et Dieu nous donne le mieux pour aller avec les capacités que nous avons. Et il nous donne tout ça dans une très grande confiance, avec une grande délégation. Il nous laisse gérer ça comme s'il était parti en voyage, nous dit la parabole. Et la parabole nous dit qu'il part longtemps. Je ne sais pas combien de temps les disciples imaginaient quand ils ont entendu parler de cette parabole, quand ils ont entendu ce longtemps. Nous, on sait que ça dure depuis presque 2000 ans, 20 siècles. Effectivement, il nous laisse longtemps en autonomie pour faire grandir le royaume. Mais même s'il est absent, même s'il nous laisse en autonomie, il reste le patron. C'est lui qui reste le chef de cette exploitation agricole. Et ce qu'il a confié, ça lui appartient toujours. Et avec la confiance qu'il a donnée, il viendra aussi demander des comptes. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Et je crois que c'est vraiment le point sur lequel Jésus attire l'attention des auditeurs dans cette parabole. Vous pensez avoir du temps et vous en avez. Mais gardez à l'esprit. Dieu viendra vous demander des comptes un jour de ce que vous avez fait. Il fera le bilan, il fera un bilan de mission. Comme au travail, quand votre chef vous a confié une tâche et qu'après, il vient vous voir pour faire le bilan, savoir comment ça s'est passé. Et dans cette parabole, il y a des bilans et ils se passent de façon diamétralement opposée. Le bilan est vraiment généreux et positif avec ceux qui se sont mis au travail, avec ceux qui ont joué le jeu. Et le bilan est vraiment dur avec celui qui n'a pas fait ce qui était attendu. Et on voit là deux attitudes différentes, opposées, face à la confiance que Dieu nous donne. La bonne attitude, celle que la parabole nous invite à avoir, c'est de se mettre au travail. Se mettre au travail aussitôt, nous dit le texte, immédiatement. Et c'est peut-être là une des clés. Parce que quand on a beaucoup de temps comme ça, on peut avoir tendance à remettre un peu plus tard. Mais si on a remis un peu plus tard, on peut remettre encore un peu plus tard. Et comme ça, se retrouver dans une difficulté et dans un découragement. Ceux qui ont bien travaillé s'y sont mis aussitôt. Et c'est une invitation. S'y mettre aussitôt, peu importe ce qu'on a reçu, peu importe ce que mon voisin a reçu, j'ai reçu de quoi travailler et de quoi faire avancer le royaume de Dieu. Et ces bons serviteurs, et celui qui met en œuvre ce qu'il a reçu, eh bien, il y arrive. Il y arrive, et celui qui a lu la Bible, qui la médite, trouve ça finalement assez naturel, parce que Dieu équipe ses serviteurs. Il leur donne son esprit, il leur donne la prière comme une possibilité de se tourner vers lui, avec cette promesse, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Il donne aussi l'Église avec des ministères, des responsables pour accompagner des frères et sœurs, pour encourager, pour former. Avec tout ce que Dieu a donné, ceux qui se mettent au travail avec lui n'ont pas d'échec. C'est difficile de faire des statistiques sur cette parabole où il y a seulement 3 serviteurs. Les statisticiens diront que l'échantillon n'est pas représentatif. Néanmoins, c'est ce que je constate. Ceux qui s'y sont mis, ils ont réussi. Et là, au retour, au moment de faire le bilan, eh bien, il y a ce bilan merveilleux. Il y a cette phrase magnifique qui fait vibrer mon cœur, que j'attends avec impatience de pouvoir entendre en ce dernier jour. C'est bien. Dieu qui dit, c'est bien. Tu es un bon esclave, digne de confiance. Entre dans la joie de ton maître. Au moment du bilan, pas besoin de compter pour savoir combien a été produit. Il n'y a qu'un seul bilan pour ceux qui se sont mis au travail. C'est l'approbation du maître. Et l'invitation à entrer dans sa joie, à se réjouir avec lui. Parce que c'est ça qu'on tire à travailler pour Dieu. Entrer dans sa joie. La récompense, ce n'est pas les remerciements des frères et sœurs de l'Église. Ce n'est pas une belle place dans l'organigramme de l'Église, une belle responsabilité. Et quand c'est ce qu'on cherche, on est toujours déçu. La vraie récompense, c'est celle de voir le royaume de Dieu grandir. C'est celle de savoir que ça réjouit le cœur de Dieu. Et la vraie récompense, c'est le plaisir de pouvoir participer à ça, participer à ce qui réjouit le Seigneur. Et c'est ça que rate le mauvais esclave, le mauvais serviteur. Lui, il n'a rien fait. Il n'a même pas essayé. C'est pas qu'il a mal fait. Il n'a pas investi et perdu ce qu'il avait investi, il n'a même pas commencé. Et Dieu lui fait remarquer pourtant qu'il y avait des trucs simples à faire. Tu aurais pu mettre l'argent en banque. J'ai fait un calcul. Si je mets une somme sur un livret A, il faut 92 ans pour doubler la somme. C'est loin du rendement des autres qui se sont mis au travail. Mais même ça, il aurait pu le faire et il ne l'a pas fait. Il y a des trucs simples qui ne coûtent pas cher pour le disciple. Venir à l'église, participer avec enthousiasme au culte, sourire, montrer par son attitude qu'on est heureux du salut qu'on a en Jésus-Christ et en témoigner à ceux qui sont présents. Il y a être présent, accueillir, dire un simple bonjour chaleureux à ceux qui viennent. Inviter simplement nos amis lorsqu'une occasion se présente. Devenir membre, s'engager, participer financièrement pour que les projets se concrétisent. Et il y a encore d'autres choses. Il me semble que oui, il y a des choses simples qui peuvent être faites, au-delà tout de suite de viser un grand ministère. Mais lui, ce mauvais serviteur, ce mauvais disciple, il n'a même pas essayé. Et je crois que s'il n'a pas essayé, c'est parce qu'il s'est trompé sur Dieu. Il a cru que Dieu était quelqu'un de dur, qu'il était je ne sais quel exploiteur qui met au travail. Il n'a pas voulu tenter l'aventure de la foi. Il n'a pas voulu croire ce que dit Dieu, que le service n'est pas difficile avec ce que nous confie le Seigneur. Il n'a pas voulu croire à la promesse qu'il y a de la joie dans le service. Deux attitudes. Et cette parabole est, je crois, une invitation pour les éditeurs. Dieu tarde, mais ne vous faites pas avoir. Dieu nous donne, pardon, il nous confie un capital, des capacités, un caractère, des qualités, des dons spirituels, des talents. Il nous équipe de son Saint-Esprit. Tout ça, ce n'est pas à nous. Ça nous est confié, non pas pour notre confort, mais pour produire. Pour produire plus, pour la croissance, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et j'aimerais, à la suite de la parabole, relayer ce que je perçois comme être l'invitation de Jésus. N'ayez pas peur. Tentez l'aventure. Mettez-vous au travail dès maintenant et entrez dans la joie du Maître. Voilà ce que dit cette parabole, qui est une invitation pour les auditeurs, qui est une invitation pour nous aussi à travers les âges. Mais c'est un culte vision où nous nous interrogeons sur qu'est-ce qu'on fait en Église. Et qu'est-ce qu'on va faire en Église pour accompagner ce mouvement? Quel est le rôle de l'Église là-dedans? Qu'est-ce que c'est l'Église qui n'est pas nommée dans cette parabole? Si on reprend cette comparaison de Dieu comme un patron, l'Église, c'est certainement son entreprise. L'Église universelle, c'est l'entreprise du Seigneur, et l'Église locale, une agence, une succursale, c'est un lieu où les disciples, les esclaves, les serviteurs sont ensemble pour ensemble faire fructifier leurs dons, leur capital. Vous vous souvenez de notre projet d'Église? Faire des disciples qui font des disciples, être des disciples qui font des disciples et qui en font toujours plus. Et nous avons vu comme ça 5 mouvements qui partent de l'extérieur jusqu'au centre de ce que Dieu attend. En Église, nous voulons inviter. Inviter pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent s'approcher. Et quand ils s'approchent, nous voulons les accueillir, qu'ils se sentent bien, comme Dieu veut qu'ils se sentent bien parmi nous. Les accueillir pour qu'ils aient envie de revenir, qu'ils soient exposés à la bonne nouvelle. Et nous voulons ensuite les baptiser, non pas comme au Moyen-Âge, on baptisait en masse sans demander son avis, nous voulons baptiser ceux qui, touchés par le message, souhaitent engager leur vie à la suite de Jésus. Nous voulons les baptiser, les intégrer dans l'Église, pour qu'ils fassent ce pas d'entrée dans le peuple de Dieu. Et ce point d'arrivée est aussi un point de départ, puisque une fois que le chrétien, le jeune disciple, s'est engagé, il doit être enseigné. Et c'est ce que nous voulons faire en Église, enseigner la maturité. Et je ne parle pas seulement, nous l'avons vu le mois dernier, de ce qui est fait de la chair pendant la prédication. L'enseignement, nous le faisons les uns avec les autres, quand nous nous accompagnons, quand nous nous accompagnons vers la maturité spirituelle, quand nous prenons quelqu'un sous notre aile, quand nous, en groupe de maison, nous partageons nos joies, nos fardeaux, nos difficultés, nos victoires également, pour nous stimuler dans cette croissance vers la maturité. Et il manque le cinquième mouvement que nous voyons aujourd'hui, envoyer. Envoyer, servir. C'est ce que nous avons vu dans cette parabole. C'est la vocation ultime du chrétien, servir. Servir son maître pour faire grandir le royaume de Dieu. Comment faire ? Soyons concrets. Comment l'Église peut-elle entrer dans ce mouvement d'accompagner vers le service, d'envoyer vers le service ? Le premier point, le premier rôle que l'Église peut avoir, c'est de compter sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître. L'Église, ce n'est pas une association de plus où on compte sur la bonne volonté de chacun, où on répète que si on veut que ça tourne, chacun va devoir prendre sa part. C'est un lieu où on s'attend à Dieu. C'est lui qui recrute ceux qui vont servir. Et le rôle de l'Église, ce n'est pas de mettre les gens au travail, c'est de recevoir ceux que Dieu met au travail. Alors, notre rôle, ce n'est pas ainsi de courir désespérément après les uns les autres, ce n'est pas de chercher à boucher les trous, mais c'est de nous tourner vers Dieu, en premier. Jésus a dit à ses disciples, « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. » Il a prévenu, « Vous aurez toujours l'impression qu'il manque des gens. » Priez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est vers Dieu qu'il faut se tourner. Et c'est sur lui qu'il faut compter. Alors, nous prêchons la nécessité du service pour le chrétien, ce que je suis en train de faire. Et lorsque nous voyons un besoin, nous suggérons à notre frère, à notre sœur, « Tu sais, je crois qu'il y a ta place ici. » Mais nous devons surtout nous en remettre à Dieu avec conscience, avec confiance. Nous en remettre à lui et le prier pour qu'il ouvre nos yeux sur ceux qu'il a placés parmi nous pour la tâche que nous avons en tête. Ou le prier peut-être pour qu'il nous montre et nous convainque que cette tâche que nous avons vraiment à cœur, elle n'est pas pour tout de suite, mais pour plus tard. En tout cas, nous devons nous synchroniser avec lui, avec ce qu'il veut, avec ce qu'il a prévu. C'est lui qui recrute, le service, c'est avant tout une affaire entre le disciple et le maître. Est-ce que nous lui faisons confiance ? Il y a vraiment un défi, en particulier pour ceux qui ont à cœur le ministère de l'Église, et j'en fais partie. Le deuxième rôle pour l'Église, c'est d'intégrer chacun. Lorsque je travaillais en entreprise, un jour, j'ai suivi une formation pour être chef d'une équipe. Et il y a une chose qui m'a été dite lors de cette formation qui m'est toujours restée. On nous a dit, vous devez faire avec l'équipe que vous avez. Vous ne devez pas vous plaindre que tel ou tel est mauvais, parce qu'il n'y a pas de mauvais chez nous. Il n'y a pas de mauvais chez nous. Et d'expliquer s'il y avait quelqu'un de mauvais. Si vous dites que quelqu'un n'est pas bon, ça veut dire que la direction s'est trompée en l'embauchant. Cette remarque m'est restée. Je suis loin d'avoir une confiance absolue dans le système de recrutement de cette entreprise. Par contre, je crois fortement, fermement, dans l'affabilité de notre maître. Je crois que dans ceux qu'il choisit, il n'y a pas de mauvais. Il n'y en a pas qui soient bons à rien. Pour la bonne raison que c'est Dieu qui a choisi chacun. J'en reviens à cette entreprise dans laquelle je travaillais. Les conséquences de ça, de ce qu'il n'y a pas de mauvais, c'est qu'on nous disait que si quelqu'un n'arrivait pas à faire la tâche qu'on lui avait affectée, la tâche qui lui était assignée, c'est soit qu'il n'était pas correctement formé pour cela, soit qu'il n'était pas fait pour cette tâche et qu'il fallait lui trouver un meilleur rôle, ce à quoi il était fort. Et c'est ce que nous devons faire en Église. Nous devons former les personnes pour le servir, pour le service, enseigner comment faire, partager l'expérience de ceux qui sont là depuis plus longtemps, donner des conseils, écouter les difficultés également. Il est normal d'avoir des difficultés. Puis encourager. Encourager à poursuivre. Et puis, la deuxième chose, trouver une place, trouver la place de chacun. Dieu a choisi chacun, il a une place pour chacun, à nous de la trouver. À nous, éventuellement, de faire cette place parmi nous, si c'est quelque chose de nouveau. Mais à nous de faire en sorte que chacun puisse utiliser les dons que Dieu lui a confiés. Paul a comparé l'Église à un corps et les chrétiens aux organes de ce corps. Et il a dit, Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun selon sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'Église, on est comme devant un grand puzzle constitué de tous ceux que le Seigneur a rassemblés. Et qu'il faut reconstituer ce puzzle, trouver la place de chacun. Quel beau défi! Quel beau défi pour arriver à faire la belle image que le Seigneur a prévue. Troisième rôle qu'a l'Église, c'est confier un ministère, confier une responsabilité, parce que je crois que c'est la finalité finalement, que chacun trouve ce à quoi Dieu l'appelle vraiment, profondément, et qu'il puisse se consacrer à cela. Parce que pour servir correctement, il faut du temps. Il faut du temps pour se former, pour réussir à être de plus en plus efficace, mais il faut aussi du temps pour réfléchir à sa pratique. Au lieu d'avoir toujours la tête dans le guidon, savoir réfléchir aux difficultés qu'on a dans son service pour trouver des solutions avec Dieu dans la prière. Il faut du temps pour se laisser guider par Dieu. Se spécialiser sur un service, sur un ministère, ça n'empêche pas d'être disponible pour donner des coups de main, et je crois que c'est profondément biblique que nous ayons encore du temps pour donner des coups de main. Mais je crois qu'il faut oublier cette idée d'attendre que tout le monde fasse tout. Que tout le monde soit à la fois musicien, moniteur d'école du dimanche et responsable de groupe de maison et opérateur à la sono. Et stop. Dans les Actes des Apôtres, on a ce récit où le Saint-Esprit interpelle l'Église à un moment clé et dit « Mettez à part pour moi Paul et Saul pour l'œuvre, Barnabas et Saul, pardon, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Saul, qui sera appelé plus tard Paul. Je les ai appelés à quelque chose de précis. Mettez-les à part pour cela. Ne comptez plus sur eux pour courir partout. Je veux qu'ils se concentrent sur ça. C'est eux que j'ai prévus pour se concentrer sur cette tâche. Eh bien, il me semble que c'est là que nous devons essayer d'aller. Discerner en Église ce à quoi l'Esprit destine les différents disciples. Et mettre à part les uns les autres. C'est-à-dire, mettre à part, accepter de laisser partir. Là, cette église de Jérusalem devait accepter de laisser partir Barnabas et Saul très loin, de ne plus les voir que pour de rares comptes rendus missionnaires. Et parfois, c'est le cas pour nous aussi, de laisser partir quelqu'un qui a un appel pour devenir pasteur, missionnaire, avoir un ministère ailleurs qu'à Clermont-Ferrand, ailleurs que dans notre église. Mais partir, c'est peut-être en restant dans l'église, partir de quitter ce lieu où je suis disponible pour tout parce que je me concentre vraiment sur quelque chose. Et il y a aussi là un départ qu'il faut être prêt à faire. Prenons l'exemple d'un prédicateur ou d'un moniteur d'école dimanche ou un responsable de groupe de maison qui dirait « Je veux me consacrer à mon appel. » Alors j'arrête. J'arrête la musique, j'arrête la sono, j'arrête l'accueil. C'est laisser partir. Est-ce qu'on est prêt à laisser partir comme cela? Mettre à part, c'est accepter de laisser partir, c'est aussi accepter de donner à un responsable sa place. Si on discerne que tel ou tel est appelé à un ministère, eh bien, il faut lui laisser la place pour l'exercer. Et le Seigneur donne, dans la parabole que nous avons lue, une grande autonomie. Il donne un cadre, celui de la croissance, et ensuite, il confie le capital et il s'en va. À nous de nous inspirer de notre maître, de donner un cadre au ministère, définir ce que nous attendons sur tel ou tel point, et ensuite faire confiance à ceux à qui nous confions ce ministère. Et nous allons le vivre très concrètement, puisqu'après cette prédication, nous aurons un temps de présentation de ministères qui ont été travaillés, mais nous y reviendrons. Voilà, je crois, ce que nous devrions viser en Église. Vous vous souvenez de ce schéma avec les différents cercles. Et le centre de ce cercle, chaque cercle, c'est s'approcher toujours un peu plus de ce que Dieu attend, et le centre de ce cercle, c'est être serviteur au service de Dieu. Et je pense que cette parabole vient montrer que c'est vraiment ce que Dieu attend. Que ceux qui sont complètement à l'extérieur de l'Église viennent pas à pas pour venir jusqu'au centre, servir notre Dieu et en tirer beaucoup de plaisir. Et c'est ce que nous devons faire en Église. C'est ce que nous voulons faire. Après inviter, accueillir, baptiser et enseigner, nous voulons envoyer. Envoyer vers le service. Nous attendra Dieu, qui est celui qui recule, qui recrute, qui met au travail. Intégrer chacun. Former. Trouver une place à chacun dans l'Église. Et puis, envoyer. Accepter la spécialisation. Encourager ceux qui veulent se lancer à avoir des ministères puissants, leur donner les moyens pour cela. Voilà le disciple accompli, voilà ce que nous visons de faire en Église, chacun pour sa part, chacun en encourageant, chacun en participant à tous les niveaux. Et nous voulons faire cela pour la croissance du royaume de Dieu, pour sa gloire. À lui soit toute la gloire.